Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Aujourd'hui, jour de pluie oblige, pour m'habiller, j'ai dégainé un simple t-shirt et un short de bain et par-dessus une veste Macintosh, à portée ouverte, hein, histoire de pas passer pour un pervers en impair. Le Macintosh, ça ressemble à un trench sans le col tailleur, juste un petit col semblable à celui d'une chemise. C'est fait dans un tissu rendu imperméable parce qu'il est trempé dans une sorte de caoutchouc dilué. Le caoutchouc, c'est de la sève d'arbre transformable de différentes façons, pour servir aussi bien à faire des gommes au bout d'un crayon que de chewing-gum à mâcher. Fun fact, c'est aussi grâce au caoutchouc que les frères Montgolfière ont rendu imperméable leur ballon de Montgolfière et réalisé leur premier vol avec des humains en 1783. Et donc la sève dont je vous parlais, c'est le latex, une matière complètement folle, issue d'arbres comme l'EVA, qui sert aussi bien à faire des choses aussi fines et résistantes qu'un préservatif, que des bons gros pneus de bagnole, et donc ça évite beaucoup d'accidents. Bref, revenons à mon look, la chose la plus importante dans votre vie, je le sais bien. Je complète ma tenue de pluie par des baskets Veja, dont la semelle est majoritairement composée de caoutchouc sauvage. Oui, sauvage, pas comme les Pokémon, mais par opposition au caoutchouc issu de cultures intensives qui causent beaucoup de déforestation, en particulier en Asie et en Amérique latine. Donc même quand il est naturel, le caoutchouc n'est pas toujours éco-responsable. C'est pour ça que c'est important de le choisir sauvage ou issu de forêts durablement gérées. Il existe aussi le caoutchouc synthétique, obtenu grâce à des hydrocarbures polluants. C'est du plastique, quoi. Mais ça a aussi les avantages du plastique, du coup. Peu cher, résistant et léger. Bref, pour bien comprendre la différence entre le caoutchouc naturel, sauvage ou synthétique, j'ai fait appel au mec qui fabrique mes baskets préf, Sébastien Kopp, cofondateur de la marque Veja. Ça veut dire « regarde » en portugais. Et c'est l'une des marques françaises de baskets éthiques les plus connues à l'international. Justement parce qu'ils ont révolutionné le modèle économique du marché de la basket. Quand on en achète une paire, le prix paye vraiment les matières premières, et non des campagnes de pub et contrats d'égérie hors de prix. Et si j'ai fait appel à Sébastien Kopp, c'est aussi parce que Veja joue un rôle positif contre la déforestation de l'Amazonie, un véritable poumon du monde. Et je t'ai appelé parce que t'es un peu un expert en la matière du caoutchouc, justement, et pourquoi est-ce qu'on fait des semelles en caoutchouc? C'est quoi les propriétés de cette matière?
Cette matière, elle vient de loin. Elle vient du 18e, 19e siècle, où le caoutchouc, par exemple le Brésil, au 19e siècle, c'est 70-80% des exportations brésiliennes, c'est la richesse brésilienne, c'est le début des pneumatiques, le début de toute une industrie qui repose sur le caoutchouc. Et c'est une matière particulière parce qu'elle est partie d'Amérique du Sud à la fin du 19e pour atterrir en Asie, où les Brésiliens la récoltaient, je dirais, de manière sauvage. C'était des EVA qui poussaient dans la forêt amazonienne un peu épars. Il y avait un EVA tous les 50 mètres. Et les Asiatiques l'ont planté en Thaïlande, en Malaisie, et ont fait des plantations d'EVA pour un rendement beaucoup plus productif, parce que là, ils plantaient les EVA les uns après les autres, avec 2 mètres de distance, 2 mètres 50 de distance, et ils pouvaient récolter la sève des EVA, qui est le latex. Le latex, c'est du lait d'EVA, en mettant un peu de soude et quelques matières premières naturelles, on obtient, en le durcissant, du caoutchouc. Matériau incroyable, avec des propriétés extraordinaires, une solidité et une élasticité folle. C'est un matériau assez magique. Dans les baskets, c'était l'un des matériaux de base quand les baskets ont commencé, c'est-à-dire il y a presque 100 ans, quand l'industrie de la basket a grandi avec Nike, avec Adidas dans les années 70. Et ben, on est passé de l'utilisation de ce caoutchouc naturel à du caoutchouc synthétique. Mais le caoutchouc synthétique, c'est du plastique. Il n'y a plus de caoutchouc dedans. On crée une matière plastique qui avait les mêmes propriétés que le caoutchouc. Et nous, quand on a monté Veja en 2004, on s'est dit qu'on avait envie de faire une basket plus écologique. On s'est dit, pourquoi pas remplacer les matières chimiques, les matières pétrochimiques, les matières plastiques par des matières naturelles. C'est peut-être un peu moins malléable que du plastique, c'est un peu, c'est sans doute plus cher, mais on peut essayer. Et nous, on avait envie d'utiliser des matériaux écologiques, mais aussi de prendre soin et d'avoir une attention particulière à celles et ceux qui le récoltent.
Et comment est-ce qu'on faisait les semelles avant la colonisation d'ailleurs ? En quelle matière c'était fait et c'est quoi les différents mots pour désigner la semelle ? Parce que parfois on parle de crêpe, de semelle en crêpe, parfois on parle de semelle en gomme. Ça désigne quoi précisément ?
Alors les semelles, ça a été beaucoup fait en peau, en cuir ou en bois, ou un mélange des deux.
Et la crêpe, c'est quoi ?
Il y a plusieurs types. À la base, c'est du caoutchouc. C'est une façon de travailler le latex. Mais aujourd'hui, le crêpe de Clark, c'est du caoutchouc synthétique. C'est du plastique.
D'ailleurs, il y a un truc qui est propre aux chaussures, c'est que sur l'étiquette, il n'y a pas forcément écrit noir sur blanc, caoutchouc sauvage ou autre, mais il y a plutôt des pictogrammes pour désigner si c'est du cuir, une matière synthétique, etc. Pourquoi est-ce que c'est différent ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit une liste d'ingrédients ?
Tu veux dire sur la petite étiquette ?
Ouais.
C'est vraiment des normes légales à respecter. Après, nous, on ajoute beaucoup plus d'infos sur le leaflet, sur la boîte, etc. Et sur, bien sûr, là où il y a la vraie info, c'est sur notre site internet. Mais sinon, là, tu parles de trucs un peu légaux. C'est pour savoir la composition de la chaussure, pour savoir en quelle matière est faite la chaussure. Parce que selon la matière, par exemple, il n'y a pas les mêmes droits de douane. Les chaussures en cuir sont beaucoup moins taxées que les chaussures en toile. Ce qui est d'ailleurs complètement fou et un peu ridicule dans l'époque dans laquelle on vit.
Non, mais c'est bien la preuve, effectivement, comme tu dis, que les lobbies du cuir sont très puissants et qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher pour des matières plus écolo ou des approches différentes en tout cas. Mmh. Et en ce qui concerne du coup le caoutchouc, comment est-ce qu'on passe concrètement de l'arbre à la semelle de mes baskets ?
T'habites en Amazonie, Anthony, tu vois, t'es un seringuero. T'habites avec ta famille en plein milieu de l'Amazonie. Tu te réveilles à 4 heures du mat, tu pars avec plusieurs bols en caoutchouc. Et tu te fais ce qu'ils appellent au camino de Seringueiro, le chemin du Seringueiro. Tu vas faire 6, 7, 8 kilomètres dans la forêt pour
à
passer
pied.
À pied, ouais. Pour passer, de toute façon, elle est tellement touffue que tu peux pas faire beaucoup autrement. Tu passes d'arbre en arbre, c'est-à-dire que tous les EVA ils sont à 50, 60, 100 mètres de distance les uns des autres. C'est un chemin dans la forêt. T'as comme une petite hachette avec laquelle tu stries l'arbre. Là, la sève coule et tu places ton bol qui va récolter la sève. Tu récoltes 33 centilitres, 40 centilitres de latex par arbre.
Donc c'est très peu.
Ah oui, c'est très peu. Et du coup, tu fais entre 50, 60, 70, 80 pour ceux qui font des chemins de malade. Et ils reviennent, ils ont récolté environ 3 litres, 4 litres, 5 litres, parfois jusqu'à 10 litres de caoutchouc par jour.
En fonction de comment les familles s'organisent, elles peuvent soit envoyer tout ce latex à des intermédiaires qui vont centraliser ça pour que ce soit transformé de façon industrialisée, soit transformer elles-mêmes cette matière première afin d'en augmenter la valeur et ainsi faire en sorte que ce produit transformé leur apporte davantage et favorise leur autonomie. C'est cette deuxième option qu'a choisi Veja. Ils ont pris le temps d'observer comment tout ça a fonctionné, acheter le latex au-dessus de la valeur du marché, et une fois la confiance acquise entre Veja et les Seringueiros, ils ont commencé à distribuer des kits de transformation aux familles. C'est de ces kits-là que va maintenant nous parler Sébastien.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Les familles transforment le latex en caoutchouc. Le latex, c'est comme du lait, un peu plus pâteux que du lait. Et boum, on a installé des kits. Il y avait un kit par 3-4 familles. Alors les kits, c'était un petit kit chimique avec de la soude et tout. Un aplatisseur, un peu comme pour faire de la pâte à pizza. Et ça fait des feuilles de caoutchouc qu'on empile les unes sur les autres et bim, on peut les envoyer direct à l'usine de basket. Pourquoi créer des kits et que eux transforment eux-mêmes le latex en feuilles de caoutchouc? pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée, de valeur agrégée dans la forêt. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, je te dis une bêtise hein, en prix, mais au lieu d'acheter 3 euros le kilo de caoutchouc, on l'achète 12.
Un intermédiaire en moins.
Un intermédiaire en moins. Et c'est valoriser économiquement la forêt. On a peut-être un petit espoir de sauver la forêt.
Oui, parce que ce sera dans leur intérêt.
C'est dans leur intérêt de la sauvegarder. Et ils gagnent plus que s'ils déforestaient et qu'ils mettaient des vaches. Alors, on a appris toute cette culture cow-boy qui veut déforester, qui veut que la profession la plus valorisée, ce soit devenir cow-boy, c'est-à-dire gardien de vaches. Et plus les mecs ont des vaches, plus les mecs ils sont riches. Et les riches propriétaires, ils ont plein de vaches. Donc, il y a toute une culture capitaliste, finalement, contre laquelle on combattait. Mais qu'on a appris, hein. On n'arrive pas sur place en connaissant tout ça. On met 1 an, 2 ans, 3 ans à comprendre tout ça. On a fait une grande réunion avec 50 mecs et tout, et les mecs, c'était la première fois en 2018 où ils disaient, bah là, il y a des rivières qu'on n'a jamais vues sèches, de mémoire d'aïeux, jamais elles ont été asséchées, bah c'est la première année où elles sont sèches. On commence à prendre le changement climatique en pleine gueule. Avant, dans la forêt, ça pouvait monter jusqu'à 40 degrés. On a eu des pics à 50 degrés. Plein de signes comme ça de la nature qui leur faisaient dire putain, en fait ce qu'on fait, ça commence à être avec le caoutchouc, à extraire le caoutchouc, à protéger la forêt, à avoir les images satellites de Veja, parce que maintenant on a accès aux images satellites brésiliennes pour voir où ça déforeste pas. On a donné une prime aux communautés qui déforestaient pas, qui faisaient attention, qui prenaient soin, etc., etc. Le caoutchouc, c'est un monde à part. Tu me dis, on fait un podcast de 30 minutes ou une heure, on pourra en parler 6 heures d'affilée, parce que ce qu'il y a derrière, c'est la forêt amazonienne, c'est la déforestation, c'est la pauvreté au Brésil, c'est des populations complètement oubliées, qui étaient en esclavage depuis la Première Guerre mondiale, puis à la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 80, il y a un mec qui s'appelle Chico Mendes qui arrive, qui est un leader syndical extrêmement fort, un peu comme Lula. Il a une super phrase. Il dit « Au début, je me battais pour les travailleurs. En fait, à force de lutte sociale, je me rendais compte que je me battais pour la forêt, pour protéger la forêt amazonienne. » Et on a été hyper fiers en 2015 ou 2016 parce que Veja a reçu le prix Chico Mendes qui est décerné à des activistes de la forêt et c'est la première fois qu'une boîte l'avait, donc on était assez fiers de ça.
On coule, on saigne les EVA, on récolte le latex, on le transforme grâce à de la soude en feuilles de caoutchouc et après il se passe quoi? Comment est-ce qu'on arrive aux semelles de basket?
Ah ben, les feuilles de caoutchouc, ils les font sécher un peu comme tu fais sécher ton linge. Ça paraît un peu con et anti-technologique, mais c'est comme ça. Il y a des photos d'ailleurs sur le site de Veja. Ils les mettent sur des pinces à linge, sur des fils avec des pinces à linge, ils les font sécher comme ça. C'est comme une feuille A5, A4, tu vois, un peu plus gros qu'A4. Et ensuite, ils les empilent les unes sur les autres. Et bim, ils les envoient direct comme ça, par ballot de 5 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Et ils les envoient direct. Et nous, ça représente... ça dépend des modèles de Veja, mais ça représente 30%, entre 30% et 60% des matériaux de nos semelles. C'est le matériau principal de nos semelles. Après, dans nos semelles, il y a de la silice, c'est-à-dire du sable. Il y a du caoutchouc synthétique parce que on n'arrive pas à faire que caoutchouc sauvage.
Et justement, pourquoi est-ce qu'on mélange avec du caoutchouc synthétique? Est-ce que c'est pour la rendre plus résistante ou plus solide? Ça sert à quoi, ce mélange?
Le caoutchouc sauvage, c'est une matière vivante, organique. C'est-à-dire que à partir du moment où tu la mets dans le camion et où elle arrive à l'usine, elle a changé. Elle a pu se durcir, elle a pu s'oxyder, etc. Et pourquoi on travaille du plastique? Parce que c'est très stable. Pourquoi ils ont arrêté de travailler du caoutchouc sauvage? Parce que c'est complètement instable. Selon l'humidité, selon la température extérieure, quand tu fais la récolte, le caoutchouc, c'est pas le même. D'une semelle à l'autre, la couleur change. D'une semelle à l'autre, elle est plus ou moins molle, plus ou moins dure. On n'arrive pas à maîtriser. Ils étaient en panique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Les mecs qui travaillent le caoutchouc dans l'usine de basket, qui sont un peu les sorciers de l'usine, tu vois, ils ont un peu une magie du caoutchouc.
Mais comme tu l'as dit, le caoutchouc peut varier énormément vu que c'est une matière vivante qui fluctue en fonction du climat, de l'humidité, etc. Mais est-ce que ça a une incidence aussi sur la qualité du caoutchouc final, enfin de la semelle, pardon, finale? Est-ce qu'elle est plus lourde, par exemple?
Ah oui, une semelle en caoutchouc, elle est plus lourde. Tout le monde nous a dit pendant longtemps vos baskets sont un peu plus lourdes que les autres, etc. Sans qu'elles soient très lourdes, hein. On n'est pas parmi les plus lourds du marché. Il y a bien plus lourd que nous. Mais par exemple dans les running, de mettre du caoutchouc sauvage dans les running, là où le moindre gramme en plus est un problème, ça a été un sacré défi.
Est-ce que ça les rend pas aussi plus résistantes, le fait qu'il y ait davantage de caoutchouc sauvage?
Ah, un vendeur de tapis te dirait oui, te dirait c'est une matière incroyable, c'est une résistance, une élasticité incroyable. Franchement, je crois que personne ne s'en rend compte. Oui, dans les faits, la matière est incroyable. Non, dans les faits, si tu mets une paire de Reebok ou de Veja, tu risques d'ailleurs de trouver la paire de Reebok plus confortable parce que beaucoup plus molle et en fait beaucoup moins résistante dans le temps. Mais du coup, le premier chaussant, tu te diras bah ouais, la Reebok elle est plus confortable.
Ouais, donc c'est effectivement très très robuste, une semelle avec davantage de caoutchouc sauvage.
Robuste, élastique, plus robuste, plus élastique, ça se craquelle moins dans le temps. Les vieilles baskets que tu laisses dans une boîte pendant 20 ans. Tu les ressors, elles sont craquelées. La semelle est craquelée, tu es desséché un peu. Donc tu vois, on n'en fait pas grand cas de cette matière incroyable.
Le truc, c'est que c'est souvent présenté comme étant un argument de ce qu'on pourrait appeler du commerce équitable, en fait. Mais c'est aussi un argument peut-être du côté du consommateur et des consommatrices de se dire « Ah, mais mes baskets dureront plus longtemps grâce à des semelles en caoutchouc sauvage. »
Ouais, mais après, t'en as un qui va faire du skate et qui va les éclater en 2 mois. Ils vont dire « Ah bah tu vois... Et déjà, ça dure pas très longtemps. Enfin, parce que c'est super de faire des baskets bio, c'est super de faire des baskets équitables, mais si elles durent qu'un an, c'est un peu une connerie. Voir si elles durent que 6 mois, c'est un peu une connerie. Ça sert à rien. Donc là, depuis, ça fait 4 ans, 5 ans, qu'on travaille beaucoup sur la durabilité des baskets, on a eu plein de victoires.
Mais nous, en boutique, quand on choisit des chaussures, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est du caoutchouc, d'où vient le caoutchouc, si c'est du caoutchouc sauvage ou synthétique? Et est-ce qu'il y a des certifications qui peuvent nous éclairer?
Ah bah non, on a été certifié par une nouvelle certification caoutchouc qui s'appelle Fair for Life, qui vient d'Ecocert, organisme super sérieux, sur tout l'aspect social de notre production de caoutchouc. Donc on est super content. Mais non, mais de toute façon, quand t'es consommateur, tu peux pas tout savoir. Et je crois pas que tu puisses tout savoir. Enfin, il y a tellement d'infos, tellement de marques, tellement de projets, tellement de trucs fous. En fait, je trouve que les marques, d'un point de vue marketing, c'est pas de faire savoir, c'est de laisser savoir. C'est-à-dire que nous, on a toujours été anti-faire savoir. En revanche, pour les gens qui ont envie de savoir, il faut que tout soit là. Il faut que tout soit publié, il faut que tout soit transparent. Et ça, je crois qu'on l'a bien fait sur notre site, ou qui est un peu long, qui est un peu chaque chapitre peut te prendre 15 minutes, 20 minutes, mais au moins il y a tout. Il y a les contrats qu'on a avec les producteurs de caoutchouc sur le terrain. Il y a toute l'histoire du latex, tout ce qu'on fait sur les semelles, il y a la précision de combien de pourcentage de caoutchouc il y a par semelle, etc. Mais ça, c'est pour celles et ceux qui veulent savoir. Et ils sont pas beaucoup. Et tu vois, toi, voilà, t'es la première personne qui m'est contactée pour me dire on fait un podcast sur le caoutchouc. Preuve que t'es dans l'avant-garde, que les perspectives changent, etc. Mais on est en 2021, tu vois. Et peu de gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière les matières premières, de que les matières premières, c'est la mondialisation, c'est les déséquilibres du monde, c'est, comme tu le disais, tu parlais de colonisation. Les matières premières, c'est ça. Et quand on ne fait pas attention à ces matières premières, que ça soit le pétrole, le caoutchouc, le coton, on ne fait pas attention au monde dans lequel on vit. On ne fait pas attention à cette mondialisation qui est dévorante pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous. Et je trouve, et avec Guylain, en 2002-2003, on s'est dit, nous, notre contribution au monde, ça va être de faire ça, ça va être de montrer l'arrière-cuisine de la mondialisation et de la montrer mais aussi de la transformer, d'essayer qu'elle soit plus digne. Je dis pas que déjà c'est parfait, mais en tout cas on se regarde dans la glace en se disant comment sont fabriqués les produits.
Et oui, ce podcast c'est un peu un cheval de Troie où vous venez pour en apprendre plus sur comment reconnaître de belles fringues en boutique, et on en profite pour vous raconter l'histoire et la géopolitique derrière ces matières premières. En l'occurrence, le caoutchouc raconte tout des enjeux de colonisation et de mondialisation, si l'on se penche dessus. Et ouais, clairement, c'est pas en boutique qu'on va en apprendre davantage sur les coulisses de la mode. Mais je vous invite quand même à prendre le temps de chercher ou demander à une marque si la semelle des chaussures qui vous tentent ont une part de caoutchouc sauvage, ou s'il ne s'agit que de caoutchouc synthétique, donc du plastique. Ce sera déjà un bon début. Mieux encore, vous pouvez même demander le pourcentage de caoutchouc sauvage. Mais il n'y a pas vraiment de certification sur la question, à part peut-être Fair for Life, délivré par EcoCert que vient d'obtenir Veja.
Mais en tout cas, si on est en train d'acheter des chaussures, si on voit écrit caoutchouc sauvage, c'est pas forcément un gage de qualité ou de commerce équitable. Mais est-ce qu'il y a des certifications fiables? Là, tu parlais du label que vous venez d'obtenir avec EcoCert, mais est-ce qu'il y a d'autres certifications que tu trouves fiables?
Non. Non, mais il y en a pas trop sur le caoutchouc. Il y a des certifications cheloues, genre Rainforest Alliance et tout, mais je veux pas casser du sucre sur le dos des ONG, enfin de cette ONG là, mais c'est beaucoup du business, quoi. Tu vois, c'est Nespresso qui fait ça avec eux. Enfin, bon, je suis plutôt circonspect sur les certifications. Les certifications, ça sert à valider un travail sur le terrain. C'est un tiers. Et c'est vrai que le fait de payer des certificateurs, déjà, ça te fait une relation de client à fournisseur avec un tiers. Enfin, moi, j'aimerais bien que les certificateurs, ils soient complètement indépendants des marques. Bon, ça n'existe pas pour le moment. Comment être sûr? Je peux pas te faire l'apologie des certifications parce que c'est un plus, c'est mieux, mais c'est pas non plus une panacée parce que je connais les failles des certifications aussi, que ce soit Max Avelar, ils ont pas assez d'auditeurs sur le terrain.
Et que ça coûte cher, effectivement, comme tu l'as dit.
Et que ça coûte cher quand tu travailles.
Certaines marques peuvent se le permettre, mais pas toutes, quoi.
Ouais, ça prend du temps, ça prend des gens sur le terrain. Après, prouver avec des certifications, oui, on en a. Est-ce que ça prouve quelque chose? Je te répondrais oui, un peu. Mais nous, notre délire, c'est d'aller au-delà des certifications, bien au-delà.
Et bah, peut-être que ce qu'on peut faire, oui, en tant que consommatrice et consommateur, c'est demander plus de transparence aux marques et qu'elles affichent leur traçabilité sur leur site, par exemple.
Ouais, même les faire chier, hein. Faire chier les marques, c'est bien.
Ouais,
ouais. Ouais, ouais, mais franchement, je te parle en tant que marque, nous méritons un public super exigeant. Ouais, hyper ouais. Exigeant, il faut être exigeant. Parce que si les consommatrices et les consommateurs sont pas exigeants, les marques le seront pas. C'est ni de la faute des consommateurs, ni de la faute des marques. C'est une danse à deux. Oui, donc si t'es exigeant dans ta façon de danser, ben, l'autre est obligé d'élever son niveau, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais moi j'y crois vachement.
Non, mais c'est une belle comparaison. J'allais dire, oui, on est co-responsables, les marques et les consommateurs et consommatrices.
Ouais. Mais bon, les marques sont bien responsables. Non, mais bien responsables dans le mauvais sens du terme. Hein. Bien responsables de beaucoup de catastrophes.
Et est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais pour bien entretenir ces baskets et ces semelles en caoutchouc en particulier pour prolonger leur durée de vie?
Le meilleur conseil, c'est d'avoir plusieurs paires de chaussures. Alors, je vous dis pas plusieurs paires de Veja, hein. Parce que vraiment là je passe pour un fou, mais plusieurs paires de chaussures. Pourquoi? Et en particulier quand on parle de basket, c'est que alors c'est pas très reluisant comme truc, mais tu vas vite comprendre. C'est quand tu mets une paire de baskets, ton pied transpire, que ce soit un homme ou une femme, ton pied transpire même si tu transpires pas beaucoup. Ça humidifie la paire. Tu la poses chez toi, tu dors, et si tu la remets le lendemain, ta paire elle est un peu humide et tu la réhumidifies, et ça joue vachement dans l'usure de la chaussure. C'est-à-dire que en gros, si tu alternes entre deux paires de chaussures, elles vont te durer toutes les deux fois plus longtemps. Si tu mets la même chose tous les jours, et ben elle va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Ok, donc faire tourner ses chaussures un maximum, ouais. Pour prolonger leur durée de vie, ouais.
Voilà.
Et justement, en fait, il me semble que ce qui amène beaucoup de personnes à changer de chaussures, c'est aussi l'usure de la semelle, justement.
Ouais.
Est-ce que c'est une matière qu'on sait bien recycler, en fait? Parce que je me dis que pour qu'une chaussure dure longtemps, il faut la rendre très solidaire entre la tige et la semelle. Mais si on fait ça, eh ben, ça pose peut-être des difficultés de recyclage, non?
Ah ben, la semelle des baskets. Et en particulier la semelle, je te parle des baskets des autres marques, la semelle des baskets des autres marques, et en particulier la semelle des baskets type running, mais pas que running, tu vois, genre Air Max, etc., c'est la pire chose qui puisse exister, c'est de l'EVA. C'est du plastique. C'est pas de l'EVA, hein, c'est E.V.A. C'est du plastique qui, je pense, sera interdit à terme parce que c'est du plastique extrêmement polluant, pas du tout recyclable. La semelle des baskets, et tu le verras même dans les marques qui se disent écolo, etc., ils parlent pas trop de la semelle parce que c'est le point sensible, le point le plus polluant. Et en fait, utiliser des matériaux naturels, écologiques dans les semelles, je pense, va être de plus en plus important, exactement dans ce que tu dis, pour la recyclabilité.
D'accord. Donc, le VA, c'est de l'éthylène acétate de vinyle, donc c'est du plastique. Exactement. Mais le caoutchouc sauvage...
J'osais pas le dire.
Mais d'ailleurs, oui, quand tu dis caoutchouc plastique, c'est souvent de l'EVA. Enfin, pardon. Ce que je veux dire, que le caoutchouc synthétique, c'est de l'EVA, mais ça peut être aussi autre chose que de l'EVA, c'est ça? Enfin, d'autres formes de plastique. Ouais.
Ah oui, il y en a plein. Bah, tu vois... Enfin, caoutchouc synthétique, c'est une dénomination pour dire ça fait comme du caoutchouc, mais en fait, c'est du plastique.
Ouais, c'est un terme générique qui peut renvoyer à plein de formes de plastique différentes. Mm-hmm. Mais le caoutchouc sauvage et le caoutchouc naturel, pas sauvage, comment on appelle ça? Caoutchouc conventionnel?
Le caoutchouc naturel, le caoutchouc des plantations, par exemple, c'est caoutchouc naturel. Okay.
Bah, le caoutchouc naturel ou le caoutchouc sauvage, ça, c'est des matières qu'on sait recycler?
Ah bah oui.
Et on en fait quoi?
C'est beaucoup plus recyclable. Non, déjà, c'est biodégradable complètement, tu vois. Mm-hmm. C'est complètement biodégradable.
Quand bien même, alors, c'est mélangé avec un petit peu de
plastique. Non. La matière est biodégradable. Après, quand tu le mélanges dans une semelle, ça l'est plus, ça l'est moins, tu vois. Ça l'est beaucoup plus qu'une semelle faite en EVA, mais beaucoup moins que la matière elle-même. Mais on fait des tests de recyclage et les mecs nous disent bah voilà, c'est 100 fois plus facile à recycler parce qu'il y a énormément de caoutchouc naturel dedans. Mais par exemple, comme piste, tu peux beaucoup plus refondre les semelles.
D'accord.
C'est-à-dire en faire, tu vois, ta semelle dure, si tu la portes à haute chaleur, elle fond.
Séparer le plastique du caoutchouc. Enfin,
ça, ils n'y arrivent pas encore, mais je pense que c'est en bonne voie.
Séparer le sable du caoutchouc?
Non. Okay. Non, le sable, il s'est incorporé, il a quasiment fusionné, si tu veux. Non, ça, tu sépares pas.
D'accord. Mais peut-être qu'on peut juste les fondre et refaire des semelles, en fait, tout simplement.
Exactement. Okay. Tandis que les autres marques, impossible.
D'accord.
Voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore merci beaucoup à Sébastien Kopp pour nous avoir éclairé sur comment on produit du caoutchouc naturel, voire sauvage, qui n'a donc rien à voir avec le plastique, qui est le caoutchouc synthétique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Matières Premières. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des mots doux sur Apple Podcasts. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain au même endroit, à savoir le flux des mini-séries podcast de Mademoiselle, pour un nouvel épisode de Matières Premières dédié cette fois au polyester. Sans doute la matière la plus utilisée de la fast fashion. Elle a archi mauvaise réputation, mais vous verrez que ce n'est pas aussi binaire que ça en a l'air. D'ici là, portez-vous bien et sapez-vous bien. Bisous!